Bonjour, bon après-midi. Hier, nous avons abordé la silence, le silence. Cet esprit mystique zen qui est pas du tout plus simple, plus complexe comme le mysticisme indien. Je me souviens plus de ce qu'on avait dit, mais je crois que c'était plus ou moins ça. Depuis, j'ai pensé toutes les paroles, tous les rituels, tout ce qu'on fait là, en fait, il ne s'agit pas du tout de ça. Ça nous aide, on a dit, les contraintes, les structures, les cadres, effectivement. Mais ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Le Bouddha avait même dit à un moment, ceux qui me voient dans les statues, dans l'encens, dans les bougies, dans les fleurs et dans les rituels, ne voient pas le Bouddha. Parce que ce n'est pas ça dont il s'agit. C'est une autre paire de manches de définir ce que c'est le Bouddha et ce que c'est qu'on voit. Mais ceci n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est plutôt... si ce n'est pas toutes ces paroles, pourquoi on le fait? Si ce n'est pas tous ces rituels, pourquoi on le fait? Si ce n'est pas les sutras, etc. Et les origines de ça. Pourquoi on le fait? Parce que tout ça, c'est vraiment les marques du zen, tous ces rituels, à différents niveaux. Et celui qui a amené cette pratique de l'Inde et puis en Chine, dans le 5e siècle, disait très clairement que c'est une transmission en dehors c'est une transmission spéciale, disons, les zen, en dehors des écritures. Ça ne dépend pas du tout des lettres et des mots. Ça pointe directement à l'esprit humain. Il fallait que je regarde parce que d'habitude je dis en anglais. Il fallait que je note comment je dis en français. Donc ça n'a pas du tout à voir avec les sutras, les chants, des rituels, tout ça. Pas du tout à voir avec ça. Il y a un courant qui dit que le maître demande à ses disciples si tu étais confronté à quelqu'un de malvoyant et tu lui montres le statut, tu lui montres le bâton, tu lui montres le livre et les sutras, ça ne sert à rien. Si tu es face à quelqu'un de malentendant et tu lui racontes les choses, il peut peut-être lire les lèvres, mais tu le racontes dans une autre langue qu'il ne parle pas. C'est rien. Et si tu exiges de quelqu'un qui ne peut pas parler, je ne sais pas comment on dit ça en français. Quoi ? Ah oui, mieux, c'est vrai. C'est beaucoup mieux qu'en anglais. Quoi? En anglais, on dit dumb. Ce qui est terrible. Mais, si tu dis-moi un mot de zen, ça ne peut rien dire. Ce qui est important, c'est que chacun a son expérience de ce qui est, de sa véritable nature, de quand Bodhidharma dit que ça, ces enseignements zen pointent vers le cœur direct de chacun, c'est ça dont il s'agit. J'ai pensé à, par exemple, on a eu une discussion le premier jour chez Marjolaine. Claudia nous raconte un restaurant où elle était et un plat qu'elle a dégusté, qu'elle avait adoré. Nous autres, peut-être on était dans ce restaurant, quelques-uns de nous étaient dans ce restaurant, mais on n'a pas goûté ce plat. On n'a aucune idée ce que c'est. Elle nous dit les mots. Qu'est-ce que c'était, mousse au sarrasin?
Mousse maquis de shiitake dans une mousse de sarrasin.
Mystère boule de gomme. Enfin, on peut demander qu'est-ce qu'il y avait dedans, ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y avait des œufs? Oui, je ne peux pas le manger.
Non.
Tu savais pas, tu savais pas.
Ah,
ou de crème, oui.
Oui, mais a priori, non.
Oui. Peu importe. On peut savoir ce qu'il y a dedans ou pas, mais si on n'a pas goûté, on ne sait pas ce que c'est. On peut apprécier le délice qu'elle a eu, que le bonheur qu'elle a eu en goûtant ça, et même de la raconter, ça se voit. Mais on n'a pas eu, on n'a pas mangé, nous. Moi, j'ai décrit un plat que j'ai mangé là, que je n'aimais pas du tout, dans le même restaurant. Les autres ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Enfin, j'ai décrit le plat, mais ils n'ont pas goûté. Donc, il s'agit d'avoir son propre expérience de ce qui est. Que ce soit un plat dans un restaurant, que ce soit ton esprit original, original mind. Ça se trouve que c'est le nom de Dharma d'Adrien, mais c'est l'esprit originel de chacun. C'est ça dont il s'agit, de goûter, d'expérimenter. Et tous les sutras, tous les dharma talks, tous les rituels, tout ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, qu'est-ce que c'est cet esprit originel? Est-ce que j'ai un petit truc sur lequel je peux mettre mon carnet? Parce que ce sera plus facile. Qu'est-ce que c'est cet esprit originel? Comment dire? C'est comme on discute avec des gens qui vont faire un site web. Ils nous disent, on va vous livrer le site, mais il faut donner le contenu. OK. Disons que cet esprit originel, c'est avant le contenu. Surtout avant que la création du contenu qui est ce monde, avant la création de bien ou mal, grand ou petit, vrai ou faux, ceci et cela, c'est avant. C'est l'esprit originel, c'est avant. Et donc, il n'y a pas ce contenu. Enfin, ce n'est même pas juste de dire qu'il n'y a pas ce contenu, mais le contenu avec ses aspects n'a pas encore été créé. C'est dualité, disons. Comme la poétesse américaine Gertrude Stein a dit, et elle venait de Oakland, dans la Californie, c'est près de San Francisco, et elle aimait dire, et beaucoup de gens n'ont pas compris, elle disait, quand tu arrives à Oakland, quand tu arrives là-bas, tu vois qu'il n'y a pas de là-bas, là-bas. There's no there, there. Non. Et les gens pensaient qu'elle disait que Oakland est tellement nul qu'il n'y a rien à voir. Mais ce n'est pas ça qu'elle voulait dire. C'est que quand tu arrives là-bas, tu es là, tu es ici. Et donc, il n'y a pas de là-bas quand tu es ici. Et tout est ici, on dit. Donc, avant cet esprit originel, c'est avant ce concept de là-bas et ici, ou là et ici, ou ceci et cela. Avant, avant, avant. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'esprit humain, le cerveau, est tellement astucieux qu'il crée du contenu tout le temps. Il a créé même quelque chose qui va créer le contenu. L'intelligence artificielle. Comme si on avait besoin de quelque chose, de créer du contenu. Comme si notre esprit ne créait pas assez de contenu déjà. C'est l'ironie absolue. C'est qu'on crée quelque chose qui va créer du contenu. Quand on est inondé de contenu déjà dans notre tête. Donc cet esprit original, c'est avant ça. Et avant que tout ça a été mis en place. Et cet esprit originel, donc, est libre. Libre d'attachement. N'a même pas... n'est pas attaché au ceci ou cela, parce qu'il n'y a pas de ceci ou cela. Et comme Marjolaine a dit hier, elle entend que cette bruit, c'est le radiateur. Et donc, concept créé tout de suite. Donc, dans l'esprit originel, il n'y a même pas ce concept. Donc, l'esprit originel est libre de concept, d'opinion, de position, libre d'expérimenter les choses telles qu'elles sont. Évidemment, très vite, on crée du contenu. Très vite, ça s'est passé comme ça pour Marjolaine avec le radiateur, non, n'est-ce pas? C'est comme ça. Où on va chercher à comprendre. Donc, Claudia décrit le plat et on cherche à, ok, le situer. De quelle couleur c'est? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Est-ce que je peux le manger? Est-ce que j'aimerais? Comment ils ont coupé un champignon assez fin pour faire un maquis, enfin, je ne sais même pas si c'est ça. On visualise la chose, on visualise la situation, quand c'était dégusté, comment était le restaurant. Très vite, tout ça, c'est un éclair. Cette pratique est censée, enfin notre intention, c'est d'essayer de revenir avant. Avant ça. Ou, par exemple, en prendre nous-mêmes. Donc, on me dit, qui es-tu? Je vais dire, mon nom, mon âge, mon nationalité, mon occupation, tout un tas de choses, et ça dure des jours. On raconte qui on est. Des jours et des jours et des jours. Des heures et des heures et des heures. Mais on n'est rien de tout ça. Donc, la question, c'est avant tout ça, qui es-tu? Parfois, je dis, et je pense à l'histoire du passeport hier, parce que tu n'es pas qui est indiqué sur le passeport. Mais si tu te présentes aux douanes en disant, ils demandent un passeport, je dis, je n'ai pas de passeport parce que je ne suis pas cela. Ciao! Tu ne montes pas dans l'avion. On va peut-être t'embarquer ailleurs. Et donc, dans ce monde relatif, évidemment, il faut se situer. Mais avant tout ça, avant qui es-tu? Et si on goûte qui on est véritablement, si on goûte cet original mind, esprit original, ce n'est pas un problème ce qui est marqué sur le passeport. Il faut bien le faire parce qu'on adhère à la situation dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord des discriminations, des inégalités, qu'on impose quelque chose sur le passeport. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'on sait qui on est véritablement. Et ça ne dépend pas de ce qui est écrit sur le passeport. Donc, la personne qui nous a indiqué ça, bon, évidemment, il y avait le Bouddha qui nous pointait dans cette direction, parce qu'il a vu que c'était l'origine de nos souffrances essentielles, c'était qu'on était attaché à ces identités, on était attaché à ces concepts, On est attaché à ces désirs de « je veux ceci et je ne veux pas cela ». Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas ses désirs, mais ça veut dire qu'on n'y est pas attaché. Alors, Bodhidharma arrive à peu près 1000 ans après, et il arrive dans la Chine, où il y avait déjà du bouddhisme, mais qui était plutôt basé sur les rituels, les images, les textes, les sutras, les choses comme ça. Et il arrive et lui, il commence à parler d'autre chose. Ce que je viens de dire, c'est que c'est en dehors des sutras. Ça ne dépend pas des mots, ça ne dépend pas des rituels. C'est, ça pointe directement à ton cœur. Alors, c'était un peu controversé qu'il commence à raconter ça. Mais l'empereur de l'époque, qui était un féru du bouddhisme, tel que c'était pratiqué, et qui donnait beaucoup d'énergie, de ressources et de reconnaissance à toutes ces pratiques traditionnelles, créait des temples, créait des statues, des images, etc., veut savoir qui est ce type qui est arrivé, considéré comme un barbare, parce qu'il portait une barbe. Il n'était pas du tout habillé comme les Chinois, il était habillé à l'indienne. Et bien que c'était un prince, on dit que c'était un prince, il venait un peu comme le Bouddha d'un milieu privilégié en Inde de l'époque. Il arrive, l'empereur veut le voir, donc il fait venir, et l'empereur lui demande quels sont les mérites que j'accumule pour tout le bienfait que je fais, que j'apporte au bouddhisme. Il veut que Bodhidharma lui reconnaisse et qu'il sache qu'il fait des choses bien, que c'est un croyant, entre guillemets, et qu'il veut soutenir le bouddhisme. Et Bodhidharma lui dit, il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite à ce que tu fais, à ce que vous faites. Alors, drame. Wow. Et donc... L'empereur lui demande, alors, quel est l'enseignement fondamental du bouddhisme? Et là, de nouveau, tremblement, un peu comme je dis, pas de contenu, Bodhidharma dit vaste, vide, vacuité immense, rien de sacré. Oula, donc ça, ça ne correspond pas du tout, du tout, du tout à ce qu'il a compris, l'empereur. Il était en train de sacraliser plein de choses, parce qu'il y croit, et il ne comprend pas ce que ça veut dire, cette vide, pas de contenu, disons. Et donc, il est vexé, et donc il dit, mais qui es-tu qui est devant moi? Qui est cette, qui ose dire ce genre de choses? Qui es-tu? Et là, c'est un peu comme devant la douane, j'ai pas de passeport. Il dit, je ne sais pas. Et il s'en va. Ça, c'est une histoire fondamentale du Zen. Ce je ne sais pas, qui est un coup de tonnerre qui continue de sonner à travers des âges, des siècles et des pays jusque ici maintenant, ce je ne sais pas est radical. C'est, quand je parlais hier du mysticisme zen, c'est le mystère qui est au cœur de ça. Et c'est le mystère comme je dis, d'ailleurs c'est dans un de mes poèmes, c'est traduit en français, ce n'est pas que le mystère est maintenant clarifié, c'est que le mystère maintenant est clair. C'est pas résolu le mystère, mais ce qui est résolu, c'est qu'il y a mystère. Et c'est ça, ce je ne sais pas. Mais ce n'est pas un je ne sais pas confus, C'est pas juste un, je sais pas. Je sais pas. C'est je ne sais pas. Et c'est essentiel, ça. C'est ce qu'on on traduit par ne pas savoir. En anglais, on dit not knowing. C'est pour ça que dans le zen, il y a toujours ce langage confondant qui est toujours négatif. Non savoir. Parce que ce n'est pas... Je ne sais pas comment on pense habituellement. Ce n'est pas un non-savoir dualiste, disons. Et il s'en va et l'empereur aimerait bien le faire revenir, mais on lui fait comprendre qu'il ne reviendra jamais. Il y a différentes façons de voir ça, c'est qu'il ne reviendra jamais parce que ce qui était ici maintenant ne peut plus y être. Et donc, ce qui était là à cet instant-là ne peut pas être de nouveau là. Il ne peut pas le faire revenir, ce qui était là. Il sait aussi qu'il est parti et il est passé à d'autres choses. Et ça ne l'intéresse pas d'être dans le cours de l'empereur, en fait. Il va dans les montagnes, dans une grotte, et où il va rester, et sa légende va grandir. Mais, ce qui nous intéresse là, c'est que si l'empereur n'a pas lui-même goûté à ce que Bodhidharma a dit, c'est pas la peine de le faire revenir. C'est l'empereur lui-même qui doit goûter ça, va expérimenter ça. L'histoire ne nous dit pas si un jour il l'a reconnu, il l'a réalisé, l'empereur, mais on dit que sa fille, oui, que la fille de l'empereur a suivi Bodhidharma et est devenue une de ses successeurs, bien que ça a été enterré dans l'histoire pendant des siècles et des siècles. Alors, ce qui nous amène à notre tradition où on dit que c'est une transmission en dehors des sutras. Mais c'est une transmission. J'ai lu récemment une femme scientifique qui est en charge de l'Institut Imagine ou un truc comme ça en France. C'est une grande institut scientifique et qui racontait son parcours. Et elle a dit, elle parlait de son mentor, disons. Mentor. Et elle a dit aux journalistes, la science, c'est une transmission. Et ça m'avait parlé, parce que c'est pareil pour nous, c'est une transmission. De cœur à cœur, de maître à disciple, d'une personne à l'autre, qui se transmet dans la vie de tous les jours, en observant, comme la transmission de l'oreille au ki, quelqu'un nous raconte comment le faire, mais on observe et on le fait. Il faut le faire soi-même et ça aide d'observer quelqu'un qui le fait. Ça peut nous inspirer d'observer quelqu'un qui, on estime, a réalisé, qui est un avec ce qu'il ou elle raconte. Je raconte aussi quand j'étais petite et ma mère m'amenait à l'église, à l'équivalent du catéchèse pour les protestants. Mais je me souviens très petite, j'avais peut-être 7 ans. Je ne croyais pas une minute à ce que les gens m'ont raconté dans ce cours. Parce que je voyais qu'ils n'incarnaient pas ce qu'ils racontaient. Qu'ils incarnaient quelque chose qu'ils avaient lu dans la Bible ou qu'ils avaient lu dans un manuel. Mais c'était cru. C'était creux, il n'y avait rien, ils n'incarnaient pas ça. Évidemment, je ne pouvais pas mettre les mots là-dessus comme ça, mais je me souviens ce que j'ai ressenti. Et je me souviens que ça ne m'intéressait absolument pas cette église pour cette raison-là. Sauf le prêtre principal à qui j'ai reconnu quelque chose, que j'ai retrouvé bien plus tard quand j'ai commencé à pratiquer le zen. J'ai reconnu que ce type-là, il avait réalisé quelque chose. Et si on prête attention, on sent quand quelque chose a réalisé, quelqu'un a réalisé quelque chose. Que ce soit dans le contexte zen, que ce soit que c'est un ébéniste, que c'est un luthier, que c'est un artisan, que c'est un commerçant même. C'est quand il a réalisé ce qu'il incarne, ce qu'il est, ce qu'il fait, qu'il est un avec, on dit, on le sent. Et c'est parce qu'il a, il ou elle a cette expérience de quoi il parle, de quoi il fait. C'est une expérience directe et c'est là la transmission directe. C'est cet original mind, cet esprit originel. On dit que c'est ça qui est transmis, mais ce n'est pas que quelqu'un te donne ça. Tu reconnais ça et tu reconnais ça en toi. C'est ça qui est la transmission. Alors cet esprit originel, j'ai dit c'est libre d'attachement, libre de concepts, d'opinions, d'idées, est aussi libre fondamentalement de culture, d'origine, de genre, de race, tout ça. Parce que c'est avant le contenu, avant toutes ces différences qui sont faites. Et c'est pour ça que ça, on voit que ça fleurit à travers le monde, ces enseignements. Si ce n'était pas ça, Bodhidharma n'aurait jamais pu arriver en Chine. Et Dogen n'aurait jamais pu amener ça de Chine en Japon. Et les maîtres qui ont amené ça du Japon en Occident, ou les Tibétains. D'abord, il y avait des gens qui venaient de l'Inde en Tibet, et puis du Tibet en Occident. Ça ne pourrait pas se faire si c'était limité à une certaine culture, à une certaine forme, à une certaine race. Il y a une légende qui dit que c'est le maître de mon maître, Genpo Roshi, qui raconte que quand il était au Japon pour une espèce de formation, meeting des grands au Vatican du Zen au Japon, il a entendu les maîtres japonais dire que les Occidentaux ne pouvaient pas réaliser le Zen tel que les Japonais. J'ai entendu dire, donc je n'ai pas la preuve de ça, c'est le genre de chose, une provocation que Genpo peut lancer. Parce que Genpo, il ne faut pas dire qu'il disait aussi à ses disciples anglais que les Anglais n'avaient pas la nature de Bouddha. Pour les provoquer, pour les pousser. Mais c'est étonnant venant de la part de Maître Zen. Mais si on réalise cet esprit originel, on voit que bien sûr que ce n'est pas limité. C'est libre de culture, c'est libre de langue, c'est libre de couleur de peau, c'est libre de âge, de taille, d'homme ou femme. Tout. C'est avant tout ça, c'est avant tous ces contenus. Et c'est là où on dit que même Trump, Musk, le même esprit original, hein. C'est le même que nous. C'est bourré de contenu et un attachement à ces contenus, mais c'est le même esprit. C'est le même esprit. Et l'esprit qui, on dit que l'esprit qui s'accroche, s'attache, qui crée la violence, qui crée la séparation, c'est le même esprit qui se libère, qui voit l'unité, qui ressent la compassion et qui agit dans le sens du bien-être et de compassion. C'est le même esprit aussi. Donc vous voyez, on n'a pas besoin d'intelligence artificielle pour créer des trucs, parce qu'on les crée très bien toute seule. Hein. Que ce soit la bombe nucléaire ou le... Qu'est-ce qu'on peut dire, quelque chose. C'est difficile à trouver un truc que les êtres humains ont bien fait. Hein, mais, il y en a. L'amour qu'on ressent pour nos proches, disons. C'est le même esprit. C'est le même. Et donc, notre pratique, ici, maintenant, c'est ça notre, comme Bodhidharma nous pointait, il ne faut pas s'attacher, falloir, ce n'est pas un bon verbe, il ne s'agit pas de s'attacher aux mots et aux sutras et chants et prosternations et statues et même la vénération vers le maître et tout ça. Aussi, dans le zen, ce qui est très important, c'est que la posture des maîtres à travers l'histoire, ce n'est pas la posture de gourou. Ça, c'est indien, le gourou. Chine et Japon, ce n'est pas du tout gourou. C'est des gens ordinaires qui ont réalisé quelque chose et le transmettent parce que c'est ce qu'ils peuvent faire. Ils veulent que tout le monde réalise ça. Mais c'est des gens ordinaires, comme vous savez, hein, avec des aspérités, des opinions, des enfants, non, des boulots. Ça, c'est la caractéristique aussi du zen. C'est que c'est vraiment la vie de tous les jours qui compte. C'est bien de s'asseoir toutes ces heures sur notre coussin, mais il faut se lever et aller dans le monde, au travail, que ce soit dans un monastère ou que ce soit dans un bureau, ou dans un champ, ou dans un garage, ou dans un cours de classe, salle de classe, je ne sais pas. Faire la cuisine, c'est ça, on crée ici la situation, un genre de monde, encore on crée. C'est un contenu concret, un mini-monde où il y a du travail à faire, que ce soit nettoyage, que ce soit... Et on nettoie même si on estime que ce n'est pas sale. C'est pour ça qu'hier, quand on dit « Oh, c'est le premier jour, on n'a pas besoin de nettoyer les toilettes. » Si, on fait les toilettes tous les jours, tout le temps, tous les jours. Il y a une histoire de... il s'appelle, c'est un maître zen aux États-Unis, Kwang Roshi, qui est dans la lignée de Suzuki Roshi, et qui était un disciple de Shunryu Suzuki à San Francisco, et était son assistant, son jisha pendant le temps. Et donc un jour, il nettoyait la cuisine dans l'appartement de logement, je ne sais pas où il vit, dans le monastère de Suzuki. Tout était nickel, impeccable. Et Suzuki arrive et il y a le plateau de thé. Il rapporte le plateau de thé. Et le disciple dit, Kwang dit, Suzuki dit, « Ah, vous avez nettoyé la cuisine ?» Il dit, « Oui, c'était vraiment sale. Hein. Il a fallu que je nettoie. Et maintenant, je suis contente. C'est propre. » Et donc Suzuki dit, « Ah, c'est bien. » Comme Suzuki... On imagine, je ne connais pas, mais on entend des histoires. Ah, c'est bien. Et puis, il prend le théière et... Ouf, et soudain, l'évier est plein de thé, feuilles de thé. C'est jamais fini, le nettoyage. C'est jamais propre. C'est toujours propre. Il n'y a pas de sale et propre. C'est pour ça qu'on continue, on le nettoie. Et notre esprit, qui n'est ni propre ni sale, on peut dire d'un point de vue absolu, il n'y a même rien à nettoyer. On lavait les vitres, franchement, les vitres, ma chambre n'avait pas l'air sale. Hein. Mais j'ai apprécié qu'ils sont venus nettoyer les vitres. Fallait nettoyer les vitres. Notre esprit, on peut dire que c'est même pas ça. Il n'y a même rien à être sale ou propre. Mais on continue de chaque instant lâcher nos attachements, revenir à l'instant. Quand on se rend compte qu'on est distrait, c'est un moment essentiel. C'est le moment Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas distrait. Quand on se rend compte qu'on était distrait, qu'on est distrait, on n'est plus distrait. Et donc, on revient constamment. Revient, 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 revient. Bien qu'on est allé nulle part, mais on revient. Et tout ça, donc je raconte tout ça. Et donc maintenant, j'ai mis plein de contenu dans... C'est comme si on fait un téléchargement de tout ce contenu. Il faut, comme on l'a dit hier, laisser à la porte avec des chaussures et essayer d'expérimenter soi pour soi-même, expérimenter ça véritablement de soi-même. De quoi elle parle? C'est quoi avant? Je ne sais même pas où c'est là, avant. Et comment je peux manifester ça, cet avant? J'ai aussi assisté à un moment où le maître de mon maître, donc Genpo de nouveau, son deuxième successeur, donc son premier successeur, c'est mon maître, et son deuxième successeur, c'est Tenke, qui a un énorme centre fabuleux aux Pays-Bas. Comment tu dis en anglais, en français? L'endroit Groningen? Non.
Oui, Groningen.
En français, on
dit comment?
Groningen. Groningen, oui. Un centre fabuleux qui est presque plus japonais que les Japonais. Il a tout construit, il a fait venir des Japonais, il fait régulièrement venir des Japonais. Il fait toutes les cérémonies, il a l'hôtel magnifique, tous les rituels, tout est vraiment, vraiment comme il faut, disons. Un peu le contraire de mon maître, qui c'est mieux comme il faut que moi, mais c'est quand même pas du tout comme Tenke. Et donc, Genpo, à un moment, après qu'il avait donné un dharma talk dans un de ses grandes raouts, où il y avait 300 personnes, on était après un groupe de gens, et Genpo lui dit, Tenke, et on sent venir le barbe de Genpo. Tenke, si demain, je ne te souhaite pas, mais si demain tu as un accident de voiture et tu es paralysé, qu'est-ce que tu enseignes à tes disciples? Ouais. Alors là, toute cette... Exactement le nombre de pas qu'il faut faire, prosterner exactement de cette façon-là, tenir le bâton comme ça, avoir les robes juste comme ça, avoir même les, comment ça s'appelle, les tamis, non, les chaussettes blanches, comme il faut dans le zendo, tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu enseignes à tes disciples à ce moment-là? Je ne me souviens pas ce qu'il avait dit, Tenke. Je me souviens de son visage qui était déconfit, qui était un peu... et je me souviens que nous autres, on était tous tétanisés. C'est un peu comme si on est devenu paralysé aussi. mais c'était un superbe enseignement pour tout le monde, je crois. Probablement pour Tenke aussi. Et Tenke, je pense qu'il n'a rien changé de ce qu'il fait, mais peut-être, quoi?
Il n'a rien changé.
Non, il n'a rien changé. Mais, et peut-être il est allé même plus loin dans ça, mais peut-être qu'il est moins attaché à ça. J'aimerais bien croire qu'il est moins attaché. à tout ça, et il sait qu'il y a d'autres façons de faire. Je sais qu'il sait qu'il y a d'autres façons de faire, parce qu'il apprécie beaucoup Geno Roshi, qui est mon maître, qui ne fait pas comme lui. Et il est capable de venir dans une... Il est venu dans les retraites avec elle. Il faisait comme elle, quoi. Il suivait ce qui était dans son centre qu'on en fait. Et c'est cette liberté dont il s'agit. Donc, et on apprend ça parfois avec grande difficulté parce que, bon, heureusement qu'on n'est pas paralysé par les sur voiture, mais on perd quelque chose et où on n'a plus des ressources, ou comme moi, quand j'ai commencé à aller au Portugal, je n'avais rien. Je n'avais pas de cloche, je n'avais pas de statue, je n'avais pas de livret de sutra, je n'avais pas de coussin, je n'avais rien. Et donc, là, c'était un peu comme, ok, qu'est-ce que tu fais alors? Comment tu enseignes avec rien? Alors, c'était la meilleure expérience qui aurait pu m'arriver. J'étais plongée dans le « je ne sais pas », dans le « avant le contenu », qu'est-ce qui est essentiel. J'étais obligée de rester avec qu'est-ce qui est essentiel. Et donc, si on était assis dans un salon d'une maison avec des coussins qu'on prenait du canapé, où les gens mettaient les oreillers sur lesquels ils dormaient, ben ok. Parce que ce qui était important, ce n'était pas sur quoi on était assis. L'important, c'était de réaliser cet esprit originel. C'est ça qui était essentiel. Comment on réalise ça, c'est étant ici maintenant avec ce qu'il y a. Et il ne s'agit pas des robes et des crânes rasés, ces trucs comme ça, et il ne s'agit pas du tout de ça. Et je ne suis pas en train de dire que tout ça, c'est mauvais. Donc, attention. ce n'est pas du tout qu'il faut condamner ça et qu'il ne faut pas faire ça et il faut faire autrement. C'est que si on est vraiment un avec ce que c'est et on sait que l'essentiel est peut-être manifesté par ça, mais c'est pas ça l'essentiel, alors là, on est libre. Parce qu'il s'agit d'être libre. Et libre à répondre à la situation telle que c'est. Je ne sais pas s'il faut continuer de vous donner du contenu. Peut-être il faut entendre ce que vous avez à dire. Si vous voulez poser des questions sur aujourd'hui ou hier, s'il y avait des choses qui sont venues, ou sur d'autres choses. Les questions sont beaucoup plus intéressantes que les réponses, en fait. Et j'admire Bernie Glassman qui avait le courage de commencer son enseignement en disant « D'abord, je prends une liste de vos questions et après, je réponds. » Donc, il ne lançait pas. Il n'arrivait pas avec tout un truc. Je voulais vous dire aujourd'hui, il disait « quelles sont vos questions ?» Et donc, il y avait une liste et puis il prenait un après l'autre. Et les questions étaient toujours fascinantes.
Can I speak in English?
Si quelqu'un a besoin de traduction de l'anglais.
Pardon.
C'est pas.
So, I'm not sure yet. I'm going. At the same time, so there is this before, and the action that comes from the original mind, which is before contents. In comes from not knowing. Just if you are thirsty, you don't have to have a subtitle. I have thirsty, so I have to drink. It's direct. At the same time, there is other possibilities, like in the water. A crazy thought comes to your mind. Oh, I want to just. And as you said, there is oneness. It's all the same mind. But it's, of course, it's mysterious, at least how it is possible to have so many possibilities, and a lot of them are just going to produce consequences that are not okay. So it's a kind of the action that comes from not knowing. It's it's much different, and it seems that, than one that, okay, I put the water all over you. So there's consequences of that, that maybe we feel, oh, what's this, or whatever. But that is possible. It's, you said, it's the same mind. Mm-hmm. And we just have to be free from all that possibilities that may produce all these consequences, attachment to, or aversion, or to ways, or action, or action in ways that are not good for the others, let's say. See, my question is at the same time, it's one mind, it's all this, all the possibilities, but there is a precision that comes from not knowing.
Mm-hmm.
I think is, what is the rest doing in the one?
Ok, je vais juste répondre en anglais parce qu'il a posé les questions en anglais. So.
Do you want me to translate? Sorry.
Comme vous voulez, hein. Je réponds en. Je laisse answer in English. And
okay. Please answer
in English? Mm-hmm. Yeah, okay.
I think he was proposing a translation.
Il faut aller plus près de lui alors. Donc,
Sorry, so.
No, it's no problem, it's okay. So if we look at, you know, we always talk about these three phases from Bernie Glassman's teaching of not knowing, bearing witness, and then appropriate action, taking action. So when we, this not knowing, this original mind, is letting go of all positions, ideas about the situation, about the people, about just letting go of, I don't know, I'm going into this situation, I don't know. And then bearing witness, porter témoignage, parfois on dit en français, is, then I really look at the situation, but from a position of not knowing. So I don't have an idea already established of the situation, so then I can really see the situation. I can really see what is happening here. So it's like, okay, I gave the example yesterday in the SAMU meeting. Because I didn't have a fixed idea about what should be happening in the SAMU meeting, I could just bear witness to it and observe this like wild mind that is going all over the place, you know, all of us, you know, I could just, it was just wildly going around. At some point, the appropriate action was to say, time is swiftly passing by because the kitchen people have to get to the kitchen. It's true, I could have just let it go on and on. We could have just kept going and told jokes all morning, right? Or we could have intervened in a more, no, don't do this way or something, right? Sure, there's lots of possibilities. But the original mind, because it has let go of its attachments, is able to see clearly the situation. And then will not just throw water around. Sees the, we can look at it from, okay, we see the absolute with the not knowing mind, the oneness, and then with the bearing witness mind, we see the differences, and we see the situations, all of the context, the people, whatever, and then we are able to act appropriately because we are these two aspects of reality are being experienced.
So we have to accept the mystery of having the possibility of acting not appropriately.
Yes. However, the more we deepen our experience of original mind, of oneness and bearing witness duality, the more we deepen that, the more we trust that our action will be appropriate. It might not sometimes, or it might be, we may think after, oh, I could have done better.
Mm-hmm.
However, if we really are practicing this oneness, diversity, developing, deepening it, we will do far less harm than if we didn't do that.
I understand that. This is a kind of mystery. Is the if this all one mind? Well, it's a mystery. How come we can go other way? You know.
Mm-hmm. Well, look at that then.
Sorry.
Look at that.
Yeah.
why not go another way? Why not take another road? No, it's like we're walking in the forest and we're walking along the river and then there's a path that goes this way and we go that way. We've lost touch with the river and then maybe we'll come back. Maybe not. However, if you deepen this letting go, letting go, letting go, and seeing who you truly are, the attachments fall away. And the wanting to fix positions fall away more and more. And then you know you're acting. You know how to act without thinking, you know, it's before. Okay. Merci au traducteur. La traduction, c'est un très bon exemple aussi. Parce que pour dire quelque chose dans une autre langue, il faut complètement lâcher la langue. Donc là, je réponds à Miguel, il faut complètement que je lâche le français pour lui répondre en anglais. Et pour les deux traducteurs, c'était, il faut complètement lâcher l'anglais pour traduire en français. Et si on garde les... Et on le sent, j'ai beaucoup travaillé ça, parce qu'à une époque, mon teacher, mon enseignant, Ganaroshi, voulait donner les enseignements en français. Et toujours. Mais comme sa sangha, c'est beaucoup d'anglophones, moi, j'étais assis à côté d'elle et je faisais des traductions directes en anglais. Donc, elle disait quelques phrases et je faisais en anglais. Comme c'est fait souvent pour les Tibétains. C'est comme ça, souvent. Et il fallut que je me vide entièrement de contenu pour pouvoir donner les mots justes. Dès que je commençais à... Il y avait une pensée qui parasitait, j'étais perdue. Je ne pouvais plus le faire. Et ça, c'est un exemple de se vider, juste accueillir ce qui est et agir d'une façon appropriée. Et un entraînement pour ça, c'est ce que je donne cette méditation parfois, ou aux débutants ou à d'autres, hein, c'est de avant de commencer la séance de méditation, tu choisis une langue que tu ne parles pas. Donc, on va honorer l'Ukraine, on va choisir l'ukrainien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui parle ukrainien? C'est un peu comme le polonais et le russe. Donc,
je peux pouvoir tricher peut-être.
Oui, non. Bon. On pouvait choisir turc peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui parle turc? Non. On dit, ok, je vais m'asseoir et quand quelque chose vient, un objet, une pensée, je vais le traduire dans l'ukrainien ou turc. Pour cet exercice de traduction, et donc il faut laisser tomber, il faut se vider des concepts français ou anglais ou quoi que ce soit, vers lunettes, il faut mettre à côté, glasses, lunettes, il faut mettre à côté ça, et donner le mot en ukrainien ou turc. Ben, on est embêté parce qu'on ne parle pas ces langues. Donc, ça nous permet de juste expérimenter ça, sans concept, sans mot, sans juste, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un peu artificiel parce que on sait très bien ce que c'est. On sait comment le dire en français ou en anglais, mais c'est un entraînement vers cet esprit original, avant qu'on met des concepts, avant qu'on met les mots, avant qu'on met les catégories, avant qu'on dit que ce son, c'est le radiateur, avant. Et je recommande d'essayer, même pour quelques minutes, 10 minutes pendant la méditation. Essaye pour voir ce que ça donne. Notre pratique de compter la respiration, c'est pareil. À un moment, on lâche les numéros, on lâche inspirer, expirer, on lâche respiration, on lâche moi. Il n'y a rien que l'univers respire, en fait. Il faut le faire pour expérimenter ça. Et là, je vous parle de mon expérience. Je ne sais pas, j'invente pas ça. Mais c'est comme une recette dans ce livre de cuisine-là. Je vous donne la recette, mais il faut le faire. Si on disait, ok, on va juste lire le livre de cuisine et ça, c'est bon, on ne va pas manger. Non, ce n'est pas la même chose. Donc là, si vous le faites véritablement, ce sera goûteux, comme dans le livre des cuisines, il y a une photo qui montre cette fabuleuse recette. Mais il faut le faire et le déguster. C'est ça notre pratique. Le temps, c'est...
Le vin. 13h20.
Ah, ok. Donc, il y a un peu de temps, si vous voulez, sinon on s'arrête là. S'il y a d'autres choses à dire ou questions...
Et donc, moi, mon nom, c'est tout ça.
Oui, j'allais juste dire, Adrien n'a pas de questions sur son nom.
Moi, je ne sais pas si j'ai des questions, mais ça...
C'est, ben, c'est ça, oui.
Avant les questions, en tout cas, il y a...
Donc, comme je dis souvent, quand je donne, quand quelqu'un prend ses vœux, etc., il reçoit le nom de Dharma, et je donne un nom qui est... Je m'assois avec la personne et je laisse venir ce qui vient, etc. Et je, pareil, not knowing, mystère, je laisse tomber toute l'idée que je connais de cette personne, qui il est, qu'est-ce qu'elle fait. Je laisse tomber tout ça, tout ça. Je vide le contenu. Et je laisse venir. Souvent, il y a tout un tas de choses qui viennent, je fais des notes, etc. Et puis, à un moment, il y a quelque chose et je dis, c'est ça. Et je ne sais, c'est pas toujours très clair pourquoi, mais je sais que c'est ça. Et donc, je m'assois avec ça, pourquoi c'est ça. Souvent, ce n'est pas si clair que ça. Mais au moment de faire le Jukai, quand c'est le moment où je donne le Rakusu et je dis quelque chose sur le nom, c'est là. J'ai confiance en ça, c'est là. Et donc, prenons l'exemple d'Adrien, c'est pareil pour tout le monde. Il y a quelque chose dans le nom qui est, la personne est déjà ça, et quelque part, il le sait bien qu'il ne le sait pas. Et il y a aussi, c'est ça le chemin qu'il doit creuser. C'est là où il doit aller, la personne. Et donc, tout le monde qui... Vous êtes un, deux, trois, quatre qui ont reçu les noms, là, de moi. Vous deux, vous avez des noms d'autres personnes. Donc, je ne peux pas parler, je ne sais pas comment eux, ils font, mais... c'est ça. Il y a quelque chose dans le nom qui est... Vous êtes déjà ça. Et quelque chose à creuser, à approfondir. Et donc, c'est... À la fois, c'est les deux esprits qui sont présents. C'est à la fois l'esprit qui n'est pas éveillé et l'esprit qui est éveillé, qui est déjà présent dans ces noms et que vous avez à développer. Donc c'est ça, c'est tout ça. Et c'est rien de tout ça.
J'aurais éventuellement une question, mais je ne sais pas s'il y a assez de temps.
Si.
Je me pose la question de parfois quelle est la place de, pour honorer le contenu. Par exemple, je pense à un exemple que avant, dans ma pratique méditative, justement, je revenais un peu vers cet esprit de présence nue, quelque part aux choses, où quand j'entendais un oiseau, je cherchais, ou un arbre, quand je voyais un arbre, justement, il y avait cette recherche de me détacher quelque part du concept. Pour être vraiment dans la présence du mystère de l'arbre, pour être touché par la singularité de l'arbre ou de l'oiseau. Et en fait, depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup plus en fait, à nommer, à identifier les oiseaux. Et je vois que ça me met dans un rapport qui rajoute aussi une richesse, en fait. Donc, en fait, où en fait, c'est la singularité de cet oiseau-là, avec ses caractéristiques et son nom, qui quelque part rajoute une richesse. Je ne sais pas trop comment formuler la question, mais il y a voilà, dans cette présence nue un peu de l'esprit d'avant, peut-être avant, il y a quelque chose qui... où on n'est pas restreint par le concept et qui peut être touché par quelque chose, Mais quelle est la place en fait pour honorer la singularité et la différence et le et justement parfois utiliser le langage et les mots et le discours pour quelque part je sais pas créer un lien. Maintenant j'ai l'impression que quand je sors et que j'entends plein de sons d'oiseaux, c'est comme il y a une multitude d'êtres et que vu que je connais un peu leurs caractéristiques, ça a enrichi mon monde quelque part. Que simplement un son uniforme, sans concept. Voilà, c'est peut-être pas très clair, mais...
Mmh. Si, si, c'est très très clair. Et c'est exactement ça dont il s'agit. C'est, si on revient au jargon zen, donc il y a l'unité et la diversité, ou le relatif et l'absolu. Et si on expérimente véritablement l'unité, donc cette première expérience dont tu décris, où tu mets pas de nom, tu mets pas de concept, etc., ça c'est vraiment se immerger, non, dans de plonger dans ce monde de l'unité. Et c'est tellement touchant, quoi. C'est d'une richesse, comme tu dis. Si on voit véritablement ça, alors automatiquement, si on regarde autrement, on va apprécier la singularité de toute chose, la diversité de toute chose. Mais si on voit uniquement les différences, on ne va pas apprécier l'unité. Et si on voit uniquement l'unité, on ne va pas apprécier la diversité. L'unité sans diversité, c'est un peu totalitaire, disons. Et diversité sans unité, c'est un peu fasciste, en fait. Enfin, juste pour prendre des mots. Les deux sont dangereux si on se fige dans l'un ou l'autre. Et donc, effectivement, c'est important de développer ou regarder ou approfondir les deux aspects qui sont en fait un. C'est, si on voit vraiment l'unité des choses, on peut apprécier les singularités. De tel ou tel son, tel ou tel animal, ou personne, ou quoi. Donc voilà, c'est le chemin, hein, ça. Ça répond à ta question ?
Ouais, merci.
Okay. Ouais. Ça marche pour nous tous ici aussi, c'est l'unité, mais c'est Adrien, Miguel, Sylvaine, enfin je veux dire, ça marche pour nous aussi, juste comme des oiseaux.
Exactement.
On est les oiseaux.
Et chacun a sa place, chacun a sa façon de s'asseoir, mais là où chacun est assis est le trône de l'éveil, disons. C'est le trône du Bouddha, là où tu es. Chacun, c'est différent. Mais oui, c'est ça, effectivement.
Surtout à cette heure-ci.
Oui, exactement. Et cette heure-ci, c'est l'heure de manger. L'heure avant était l'heure de parler. Tout est bon. Oui.
Mais on va juste vous distribuer des livres de recettes, en fait. Aujourd'hui.
Oh mince alors. Je croyais que j'allais manger, merde. Le mousse au sarrasin avec le maquis aux champignons.
Maintenant, tout le monde attend maquis aux champignons. C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, c'est pas du tout ça le menu.
Je vais acheter des shiitake cet après-midi quand même. Enfin, non, elle m'a demandé des shiitake. Donc,
je sais pas faire du maquis shiitake.
En plus, tu m'as demandé des feuilles de nori et un rice cooker. Je ne l'amènerai pas.
Ah, oh, d'accord.
Attention.
Bon. Merci. C'est l'heure de. On va juste mettre un. Ah non, bref, chanter les chants.